Bonjour à tous, nous sommes réunis pour un show devant Festival international du film de fiction historique avec Richard Samel. If you say that you are mine, I'll be here till the end of time. Bonjour Grégor.
Bonjour.
Et bonjour Hugo.
Et bonjour.
Le Festival international du film de fiction historique, 10 ans, il fêtait ses 10 ans. Et rendez-vous compte qu'il y avait Richard Samel qui était présent. Et c'était lui le tout premier président du jury. Il y a quelques temps, 10 ans sont passés et il est toujours fidèle au poste et il est venu fêter la 10e édition.
C'est vrai que Richard Samel, si vous ne le connaissez pas, c'est quand même un acteur iconique. C'est un acteur franco-allemand. Il a quand même 28 ans de carrière pour 70 films et séries tournées, ce qui est quand même énorme et fantastique à la fois. Pour citer ne serait-ce que les films et séries les plus connus, vous avez OSS 117, le Kerni d'espion, où il interprète le personnage de Gerhard Möller en 2006 du coup. Vous avez aussi le film James Bond Casino Royale où il joue Adolf Hitler en 2006 aussi, donc on est 2006 très chargé et incroyablement folle pour lui, mais aussi Inglourious Basterds en 2009 où il joue le sergent Werner Ratchman. En série, nous avons deux séries qui sont plutôt connues, Un village français.
Un village français, c'est
hyper
c'est
connu.
C'est culte Un village français.
Qu'il a tourné du coup de la saison 2 à la saison 7 en jouant le personnage de Heinrich, donc de 2009 à 2007. Et la série The Strain de la saison 1 à la saison 4 où il joue le personnage de Thomas Eichhorst de 2014 à 2017.
Ouais, The Strain aussi. C'est excellent cette série. Il a vraiment un rôle assez fou. Il fait aussi des courts-métrages et de sacrés bons courts-métrages. Il a une palette de jeux incroyable, Richard Samel. Et c'était un pur bonheur de l'avoir en interview.
Bonjour Richard. Quel plaisir de vous rencontrer.
Merci pour ces fleurs. Je suis très heureux ici. J'ai fait beaucoup de belles rencontres. J'ai vu des films qui m'ont bouleversé, le dernier étant le film sur Sarah Bernhardt.
Oui, La Divine, magnifique. Son vieux.
Ouais. Puis on voit des comédiens qui font un travail extraordinaire. Et puis la réal aussi, que j'ai eu la chance de rencontrer. On fait des petits déj ensemble. On a fait le repas hier ensemble. Ah oui,
La scénariste,
c'est son mari qui a réalisé. Voilà, ils ont travaillé en tandem. J'étais scotché. Hein.
C'est vrai que c'est très.
Il y a beaucoup de comédiens
bon.
Là-dedans. Sarah Kimmerlin est vraiment là. C'est l'apothéose de sa carrière.
Oui,
on a l'impression.
Oui.
Hein. C'est un peu.
Tu as été le premier parrain du Festival international du film de fiction historique.
Ouais.
Tu as été celui qui a, entre parenthèses, essuyé les plâtres, comme on dit chez nous.
Ouais.
Qu'est-ce que ça te fait de revenir 10 ans plus tard, de voir cette évolution qu'il y a de ce festival?
Je suis pas tellement fier à titre personnel, parce que moi, je n'ai rien fait de particulier pour que ça ait lieu. C'est Étienne et toute son équipe qui ont œuvré depuis 10 ans. Mais je suis particulièrement content que cette forme de festival a pris ses aises et continue à exister, parce que je crois énormément dans l'importance du film de fiction historique, parce qu'il est au croisement idéal. Il fait le point là où je trouve que notre existence en tant qu'artiste est le plus important. C'est-à-dire apprendre de l'histoire pour projeter dans le futur, pour un meilleur futur. Et nous, on raconte des histoires, que ce soit sous forme de films ici, mais on écrit des romans, on peint, on dessine, on fait de la musique. Tout ça pour exprimer quelque chose qui donne sens à la vie. Et le film de fiction historique puise dans l'histoire pour essayer de donner sens à quelque chose qui n'est pas compréhensible, ou en tout cas douloureuse. On veut en extraire quelque chose qui vaut la peine. C'est comme la sève de quelque chose qui nous donnerait la chance de faire mieux après. Quelle est la leçon de ce truc ? La guerre, en l'occurrence, hein,
oui.
Si on parle... Et donc, quand on m'a demandé, c'était aussi le moment idéal parce que j'étais en plein village français qui est devenu l'outil pédagogique de référence, un des outils pédagogiques de référence culte maintenant utilisé dans les universités, dans les collèges, dans les lycées pour approcher cette page d'histoire extrêmement douloureuse et extrêmement complexe. Et donc, c'est un peu ça, le festival a cette vocation-là. Et c'est pas un hasard que le président d'honneur, c'est Costa Gavras.
Mais oui.
Donc, tu vois l'ampleur de la chose, c'est un truc énorme en fait. Mm-hmm. Et que qu'une jeune équipe comme ça en voit l'importance et met tout en œuvre pour que ça existe et que 10 ans après, non seulement ça continue à exister, mais ça a pris ses aises, ça a pris une ampleur. Et on voit bien des gens qui sont au rendez-vous. Là, il y a le réalisateur de Kirikou. Hier, on avait le film de
Michel Hazanavicius.
Il y avait Michel Hazanavicius. Il y avait le film sur Sarah Bernhardt. Il commence à y avoir quand même des sacrés représentants hein, de cette forme de film.
Oui, tout à fait. Et je voudrais revenir au village français parce qu'il y avait aussi le coproducteur et l'un des tout premiers réalisateurs
exact.
Qui était présent, Philippe Tribois.
Oui.
Qu'est-ce que ça t'a fait de le revoir et de te dire waouh, il y a tant d'années qui se sont passées depuis le village français et ça a fait plein de choses.
Exactement ça. Hein, c'est, je veux dire, on est devenu quand même le village français dans le sens propre du terme, c'est devenu une vie de village.
Oui.
On est devenu un vrai village puisqu'on raconte l'histoire d'un village et on était beaucoup plus soudés que les personnages qu'on jouait.
Et heureusement.
Et il y a beaucoup de liens qui se sont tissés et comme ce monde du cinéma et de la télé quand même est relativement petit, je croise régulièrement des gens dans des films. Donc avec lesquels ensuite je partage l'affiche. Là j'ai travaillé l'année dernière avec Thierry Godard à Londres. L'année dernière, ou il y a 2 ans, j'étais en Italie à faire un film de Liliana Cavani avec Fabrizio Rongione. Mm-hmm. Et puis tu croises les gens, pas forcément uniquement dans le cadre d'un film, mais aussi dans la rue où on se contacte, on se voit. Donc il y a des restes de ça, il y a une appréciation réciproque qui continue à y être. C'est-à-dire, je parle avec bonheur de Nicolas Gob, de Couton, de Audrey Fleurot, voilà, un de mes meilleurs amis à Berlin, et le partenaire d'Audrey était, parce qu'ils ont arrêté, le partenaire d'Audrey Fleurot dans HPI.
Oui.
Donc, je lui ai fait. Embrasse-la de ma part, Audrey, parce qu'il tournait à Lille. Donc voilà, ce monde est petit, on n'arrête pas de se croiser.
Oui.
Et on s'apprécie, on continue à s'apprécier. Donc on s'interroge, on demande « Ah, t'as pas des nouvelles ?» Emmanuel Dosset et Krivine, le producteur et scénariste, qu'est-ce qu'ils font ? Donc Philippe, justement, m'a raconté qu'il travaille sur une autre série, donc tout va bien. Enfin bref, on est curieux ce que font les autres, ce que deviennent les autres.
Et oui, c'est une famille.
Ouais, c'est ça.
C'est une belle famille qui s'est créée. T'avais pas un rôle facile, hein. T'avais vraiment pas... T'as souvent pas des rôles faciles, hein, on va dire, mais j'ai l'impression que le message qu'il porte... te touche et que tu te mets à fond dans ce rôle, justement.
C'est ce qu'on essaye toujours. C'est pour ça qu'on refuse des rôles, parce qu'on n'a pas la possibilité de s'y mettre à fond. Mais je ne cherche pas des rôles faciles. Ce n'est pas quelque chose que je cherche forcément. Je cherche a priori des rôles dont je ne suis pas sûr est-ce que je suis à la hauteur. C'est des rôles comme ça qui m'intéressent, parce que je veux grandir.
Oui.
Et après, oui, c'est devenu un peu ma tâche, mais je pense que ça tient à mes origines, surtout au début. Tu es jeune comédien allemand à l'étranger, tu veux faire ta carrière en Italie, en France. On t'embauche d'abord pour ce que tu es. Tu es allemand, donc on te propose des rôles d'allemand, puisque tu vas parler allemand ou avoir l'accent allemand d'une manière convaincante, sans rien jouer déjà. Donc ça vient d'abord de là. Ensuite, tu t'énerves d'une manière convaincante. Ça, forcément, on te met dans un certain type
dans
de rôle.
Oui.
Mais je pense que c'est aussi le nombre de choses que le cinéma ou la télé veut raconter. À l'époque, c'était quand même beaucoup encore de l'indigestion de cette partie de l'histoire. Donc, on en fait des films pour essayer de à la digestion historique, voilà.
Bah aussi bien au cinéma qu'en série. Hein,
c'est ça.
On t'a vu
ça.
Dans ce
Mais
rôle
ça a changé depuis 2017.
Je voudrais parler d'un rôle et d'un court métrage qui m'a vraiment pris au cœur, où tu es plein d'émotions, ou dans un cercueil. Est-ce que tu t'en souviens? Où tu fais des petites choses. C'est impressionnant.
Oui.
C'est vraiment très, très fort.
Alors,
je sais
ça
date,
a été...
Mais,
Denis, c'est un ami à moi qui a réalisé ça. Oui. Mais voilà, c'est des petites pépites comme ça qu'on choisit ensuite, parce que l'univers était tellement particulier. Mm-hmm. Et cette chose que l'espace se réduit au fur et à mesure, et que ça avait un côté morbide, Alice au pays des merveilles.
Oui, fantastique.
Fantastique.
Oui, oui.
Il y avait une forme comme ça, et surtout un regard sur la mort que j'aimais bien. Ce qui me plaisait beaucoup là-dedans, c'est que ça enlève. Ça démystifie la morbidité de la mort, parce que c'est ce regard que nous avons européens sur la mort. Et j'ai trouvé ça toujours très très bizarre qu'il y a certaines choses sont complètement mises à l'écart. À mon époque en tout cas, c'était la sexualité et la mort. Pas touche.
Oui,
pas parler, ou non, on ne regarde pas. Et moi, je trouve la mort, mais partout où je regarde, la mort, c'est la fin d'un cycle qui s'appelle vie. Et donc, et puis surtout, je vois le renouvellement avec les saisons et tout ça. Déjà, les plantes, chaque année, te font de comprendre, c'est complètement normal de mourir. Nous, on trouve ça normal que les plantes meurent, les fruits meurent. Si tu ne manges pas la pomme, elle va pourrir. Bref. Ce cycle. Mais même les animaux qui ont des cycles de vie plus courts, on le voit quand même. Hein. On a un chat, ensuite on a un autre chat, et on pleure son chat, et on pleure son chien. Voilà, je voulais déjà faire l'expérience de cet univers-là. Oui, je le recommande chaudement. Mais comment il s'appelait, ce secours?
Je ne sais plus le nom, mais moi, ça m'a
Denis
marqué.
Denis Sabah, c'était le réalisateur.
Oui, Denis Sabah. Ça m'a marqué, ça m'a pris au cœur, parce que je n'avais jamais vu autant d'émotions dans ton regard. Je n'avais jamais senti cette fragilité dans ta palette de jeu. Et là, je l'ai senti, et ça m'a fait énormément de bien. Ça m'a touché en plein cœur, en fait.
Mais c'est peut-être un des premiers films, ça date maintenant, il y a plus de 10 ans ou 15 ans,
oui,
non, c'est
tout
ça
à fait, oui.
Mais je suis allé vers des rôles comme ça, beaucoup, beaucoup moins anti-héros, beaucoup plus doux, avec pas moins d'interrogations ou d'hésitations. Disons que les personnages que j'avais joués jusqu'à présent, ils se sont fait la carapace à travers une violence ou des tendances un peu pervers. Et là, en l'occurrence, je suis beaucoup plus intéressé depuis par des gens qui n'ont pas cette carapace, ou qui ne veulent plus l'avoir. Qu'est-ce qui se passe à partir de ce moment-là? Tu vois, j'étais hier au collège, on m'a demandé, mais quels sont les rôles qui vous intéressent maintenant? Je veux dire, j'aimerais des rôles qui n'ont pas peur d'affronter les questions qui viennent une fois que tu lâches tout. Toutes les appréhensions, il y a quand même cette chose qui te dit, mais... Putain, pourquoi je suis là? Et hier, au collège, j'ai dit, vous, on ne vous a rien demandé, on vous a donné une vie, et maintenant, on vous dit, débrouillez-vous avec. Bienvenue au club.
Pas facile, hein?
C'est pas facile.
Non, pas facile.
Qu'est-ce que tu fais avec ton corps? Tu n'aimes pas ton corps? Tu es trop grand, trop petit, trop maigre, trop gras, trop gros, trop si, tata. Tu n'es jamais suffisant. Tu ne suffis jamais, en fait. T'es toujours critiqué, t'es toujours merdeuse, t'es toujours merdeuse. Moi, j'ai grandi comme ça. À un moment donné, je me suis dit, merde, il y a une raison pourquoi j'existe. Et je vais la trouver, et pour moi au moins. Mm-hmm. Voilà, j'ai rien à prouver aux autres. Et donc, tu finis par apprendre que ta vie n'a pas une raison d'exister, t'as rien à prouver aux autres. Tu dois t'en convaincre toi-même. Tu dois trouver ta raison de vivre déjà toi-même. Et à partir du moment...
Tu dois t'aimer.
Si tu n'es pas heureux seul, tu es en très mauvaise compagnie.
C'est clair.
Donc, c'est ce travail-là que je fais depuis maintenant, presque très consciemment, depuis une vingtaine d'années. Et ça porte vraiment ses fruits, parce que tu deviens ce sur quoi tu te concentres. Tu deviens ce que tu bouffes. Donc, décide ce que tu bouffes, décide ce que tu laisses entrer. Et de ce point de vue-là, je trouve extrêmement dangereux avec quelle manière écervelée on consomme les réseaux sociaux. On zappe. C'est tous des trucs qui entrent en toi, et c'est d'une manière sans cesse. Mais tu pètes un plomb. C'est comme si tu étais stimulé tout le temps. C'est une thérapie d'électrochoc à très petite dose, mais continue. Mais tu n'es plus là, en fait. Tu n'es plus là. Là, quand je suis avec certaines personnes à table, ne serait-ce que pour déjeuner, on ne discute pas comme nous, on discute maintenant. Ils sont là.
Ils sont avec les téléphones, oui. Je suis d'accord.
Oui, oui. Mais quel manque de respect. Et ce n'est même pas un manque de respect. Ils ne savent même plus que c'est un manque de respect.
Non, pour eux, c'est normal. Pour eux, c'est normal d'avoir le téléphone. Tu ne discutes même pas dans les transports en commun. Tout le monde a son téléphone.
Ouais.
Avant, on liait connaissance, mais là, c'est fini. Dans la rue, tu les vois avec leur téléphone aussi.
Et donc, tu as quelques irréductibles qui ont ça et que tu rencontres juste... Parce que les autres s'exfiltrent tout seuls. Ça fait comme des filtres. Ceux qui ne te regardent pas, tu n'entreras pas en contact avec eux. Et ceux qui te regardent, bien... Un échange possible, un sourire, peut-être une discussion, peut-être pas. Mais je te regarde, tu me regardes, j'existe, bonjour. Ton regard me dit, j'existe aussi, bonjour, au revoir. Et donc, je suis dans cette quête-là. Et puisque je me concentre sur ça dans ma vie privée, et puisque j'ai le courage et la force de dire non aux choses qui ne m'intéressent pas, ça crée de l'espace vide d'abord, mais dans lequel s'invitent les choses que je veux faire.
Oui.
Et à partir du moment, et là, maintenant, cette synergie a maintenant pris de l'allure, et maintenant, de plus en plus, je fais des choses que je veux faire parce que je crée de l'espace pour qu'ils puissent s'approcher vers moi. Là, je veux faire un film, fin novembre, d'un couple où elle est très branchée spiritualité, donc justement, elle embrasse les arbres, donc une connivence par la thématique.
Avec la nature.
Elle est activiste, donc elle veut pas que une forêt soit coupée, donc elle a un bracelet électronique, elle n'a plus le droit de sortir, elle va faire quand même pour retourner voir l'arbre où elle s'est blessée, elle sent un truc bizarre. Et elle va finir par fusionner avec cet arbre. Et lui, le mari, bienveillant, couple, relation qui fonctionne, ne sait pas comment prendre parce qu'elle pète un plomb, il faut la protéger. Et il se décide d'abord contre elle et ensuite, quand même, il va la soutenir dans sa quête, par amour. Et il va fusionner avec elle, il va avec elle devenir l'arbre.
Wow.
Et donc, c'est un truc un peu fantastique. D'ailleurs, un peu... juste ce qu'il faut de fantastique comme ce court-métrage dont tu as parlé. Et donc voilà, ça c'est des histoires comme ça qui me touchent maintenant beaucoup par cœur et qui viennent vers moi maintenant, beaucoup, beaucoup plus. Avec ça de bizarre que depuis 2017, je tourne pratiquement plus en France, mais beaucoup ailleurs, donc partout dans le monde. Et ce court-métrage, justement, est français. Donc là, je suis très content parce que j'ai donc ici à nouveau un autre court-métrage que je fais en début d'année, était français aussi, et là c'était un outil très très joli. Je joue un inventeur, un scientifique de très très haut niveau qui retourne, qui voit le désastre qui va se passer dans le futur et qui va retourner en arrière avec une machine du temps qu'il a inventée. C'est comme un peu retour vers le futur, mais sur un fond beaucoup plus cruel. Il essaye d'éviter les dégâts qu'on fait maintenant pour pas qu'on ait le désastre qu'il voit dans 100 ou 150 ans. Et là-dedans est mêlée aussi une histoire d'amour, et ça pose la question de la nécessité de la violence, À un moment donné, il faut devenir activiste. Ça ne suffit pas les belles paroles, on a bien vu. En tant qu'activiste, le gouvernement a l'arme fatale, il te criminalise. Ça, c'est criminel, il met en prison. On voit bien, les whistleblowers, ils sont mis en prison.
Mais ils traitent de terroristes, tout simplement.
Ça, je trouve, ça raconte tout. Ceux qui veulent arrêter la merde qu'on produit, ben, on les criminalise. Tu vois où on est là.
Donc, tu es
très souvent, les activistes sont devant le dilemme. Est-ce que, c'est le gouvernement qui invite les gens à devenir terroristes, puisqu'ils sont déjà déclarés en tant que tels. C'est-à-dire, ils invitent à la violence, en fait, parce qu'ils savent qu'ils ont, eux, les moyens de répression beaucoup plus fortes que enfin, c'est intéressant.
C'est ce que font les autres, ouais.
Et puis les failles. Voilà, les failles humaines. J'aime beaucoup.
T'aimes beaucoup travailler dessus. Hein. Je vois aussi dans Screens, dans la série, tu travaillais beaucoup sur les failles de ton personnage.
Parce que c'est par là que tu as premièrement la compassion. Et c'est par là que tu donnes la possibilité aux spectateurs de s'identifier. Parce que les failles, on a tous des failles, on les cache tous. Je ne veux pas que tu connaisses mes failles. Tu ne veux pas que je connaisse tes failles. Mais déjà, rien qu'en te le disant, on voit qu'on est fait du même bois. Et à partir du moment où on est fait du même bois, on comprend qu'on est dans le même bateau. Et du coup, il y a une solidarité existentielle. Et là, tu dis, ah ouais, je t'embarque dans une histoire, tu veux voir? Et toi, tu vas dire, oui, je veux voir, parce que tu es honnête. Tu me montres quelque chose qui est important de montrer et qu'on a tous peur de montrer. Donc, c'est par là que ça se passe d'une certaine manière. Et les failles aussi se transforment en force à partir du moment où tu as le courage de les montrer. Hein, comme moi, dire non à des projets, au début, je l'ai reçu comme une faiblesse. Ça m'a coûté beaucoup de dire non parce que tu le connectes avec manque d'argent de Garnier, tu dis non à une possibilité de montrer ton talent, tu dis non à une possibilité de rencontrer, de faire un réseau, etc., agrandir ton réseau. Mais ce que tu ne vois pas, puisque ça n'est pas encore, tu crées un vide, justement, où tout est possible. Et ce que ça crée ensuite, c'est que la fierté d'être fidèle à toi-même. C'est-à-dire, ça renforce ton caractère, en fait, de dire non aux choses que tu ne veux pas faire. Oser dire non quand tu veux dire non, c'est vachement bien pour ton caractère.
Il faut avoir la volonté.
Avoir la volonté et la force. Et en le faisant, c'est comme un muscle que tu t'entraînes, il te faut de moins en moins de force. Après, maintenant, c'est très facile pour moi de dire non. Tu veux ça? Non. Pourquoi? Parce que pas envie. Je sens pas. Très simple maintenant. Alors qu'au début, tu te dis, mais qu'est-ce qu'il va penser? Qu'est-ce qu'ils vont penser? Ils vont me prendre pour un arrogant, mais non, je veux pas qu'ils me prennent pour un arrogant. Donc, ce que les autres pensent de toi, c'est tellement important. Et tu leur donnes un pouvoir sur toi qu'au départ, ils n'ont pas. C'est toi qui crées ce pouvoir qu'ils ont sur eux parce que c'est dans ta tête. Donc, voilà, toutes ces réflexions-là. Donc, en fait, je suis tombé sur une citation de Mère Thérèse qui depuis est devenue une de mes phrases qui me motive le plus. Si tu veux changer le monde, va à la maison et aime ta famille et toi-même. Commence par là. Et si là ça marche bien, ben tu peux devenir activiste. Donc si tu peux pas changer la merde du monde si tu as de la merde dans ta vie privée, quoi. Enfin, tu peux, mais bon, c'est une fuite un petit peu. Tu vois, c'est comme les gens qui sont hyperactifs pour surtout ne pas trouver du calme parce qu'ils veulent pas réfléchir sur eux-mêmes. Tu vois, ça commence chez toi, en fait. Ça commence toujours chez soi.
En tout cas, merci beaucoup d'avoir dit oui à cette interview et merci pour ce moment.
Grand plaisir. Merci beaucoup.
Quand je vous parlais en prélude de ce court-métrage où c'est un peu un mélange fantastique, émotion, drame, et c'est vraiment très très fort. J'espère qu'un jour vous pourrez voir ce court-métrage parce que moi j'en ai encore les poils. Je vais pas mentir, il y avait vraiment une belle dose d'émotion et on ressent toute la fabuleuse interprétation de Richard Samel.
Et on le retrouvera aussi prochainement dans une série où pour l'instant il n'y a qu'une saison de fête du nom de A Better Place.
Oui, c'est vrai qu'il est, il fait pas mal de tournages là. Il nous en a parlé un petit peu, mais il y a des choses qui sont encore secrètes. Donc on attend avec impatience de le retrouver. Et c'est vrai qu'il a ce regard et cette façon de captiver l'écran qui est vraiment très très forte. Moi, dans The Strand par exemple, il capte tout de suite, dans Un village français aussi, où il a un rôle difficile à tenir. C'est vrai que c'est pas... à la Gestapo et tout, c'est vraiment le commandant de la Gestapo, c'est lui qui fait la pluie et le beau temps, qui décide qui va vivre, qui va mourir. Et il a vraiment ce côté très fort, très, très puissant dans l'expression du regard. Et franchement, ouais, c'était vraiment un très, très grand honneur de pouvoir l'interviewer.
C'est vrai qu'au vu de sa carrière actuellement, cinématographiquement parlant, au niveau de ses films et de ses séries, j'ai vraiment hâte de le découvrir dans cette prochaine série qu'il va faire ou de ses prochains longs ou courts-métrages qu'il ne nous a pas encore dévoilés, tout simplement. Donc c'est vrai que j'ai hâte de voir encore quel rôle il va nous proposer, quelle prestation il est capable de nous sortir.
C'était Chaud Devant, Festival international du film de fiction historique avec Richard Samel. Merci énormément Richard d'avoir été avec nous, de m'avoir accordé cette interview. Merci Hugo.
Merci beaucoup à toi aussi.
Et puis on se retrouve pour une prochaine interview très rapidement. So you got to let me know. Should I stay or should I go? It's always tease, tease, tease. You're